Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h01 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Ça y est, on reprend nos droits. Eh oui, tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h à 20h, c'est Rotten sans flamme. On refait toute l'actu du foot. Et il y en a tous les jours de l'actu du foot avec des invités prestigieux. Ça sera encore le cas aujourd'hui. Quel prestige aujourd'hui. Vous verrez la surprise à 18h45. En tout cas, on a le plaisir de, comme tous les jours, d'être bien entouré dans Rotten sans flamme avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah bah ça va super.
Écoute, franchement, magnifique.
On va atteindre le million de vues sur ta liste des bleus publiée hier. Incroyable. Rotten sélectionneur, c'est un véritable carton.
Merci à tous. Je pensais pas que je pouvais avoir ce rôle-là. Et là,
la pression que tu mets sur les épaules de Dédé, c'est incroyable.
La France a besoin de moi et je suis content d'aider mon pays.
Bravo.
Et on va réussir à être champion du monde.
T'es patriote, toi, bravo.
Exactement, je suis patriote. Il y en a un qui l'a montré aussi, qui était patriote.
Oui.
Et depuis de nombreuses années. Écoute, 50 ans de commentaires, 60 ans de commentaires, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Oui, la TVA. Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Michel.
Tout va bien.
Bon, ça va Jean-Mi?
Oui, tout va bien.
T'as vu ma liste? C'est bon, t'es satisfait?
J'ai vu ta liste et tes deux surprises et ça. D'entrée, chevalier, vachement content. D'entrée, là.
C'est une photographie à l'instant.
Écoute, Jean-Michel, comme on dit sur une liste, elle n'est pas définitive. Voilà. Et j'attends des réactions demain soir. Il y a avec des champions.
Bravo, Jérôme. Ah,
elle peut évoluer, la liste. Hein. Elle va évoluer, de toute façon. Mais bon, il y en a un qui connaît les listes, mais lui, il ne les regardait même pas parce que c'était d'office. Il était dans la liste. Non, c'est Younes Belanda avec nous. Salut Younes. Jérôme.
Salut, j'espère que tu vas bien.
Salut Younes.
Ça va, écoute Younes.
Salut à tous.
Écoute, depuis que le Sénégal est champion d'Afrique, tout va bien.
Faut plus sombrer, c'est
fini. Non, je plaisante, écoute.
Ça fait pas rire. Hein.
Non, non.
Faut
plus sombrer, il a dit.
J'ai pas l'impression que ça le fasse.
Younes, écoute. C'est comme ça, c'est le football.
C'est comme ça, c'est le foot. Hein.
Exactement. Il y en a un qui gagne, un qui perd.
Exactement.
Ouais. Écoute, on a hâte de voir la Coupe du Monde.
Content que tu sois là, Younes.
En tout cas, on est content.
Ouais, c'est gentil, merci.
Ouais, avec beaucoup de bons débats. Et donc, un invité à 18h45. Allô, Jérôme. Daniel Riolo de l'After va venir dans Rotten sans flamme. Parce que pour lui, la Super League peut sauver le foot. Il va tout nous expliquer. Vous donnerez votre avis. Jérôme, Jean-Michel et Younes. Les propos donc de Daniel Riolo à 18h45 sur RMC. À 19h, on parlera de Lille. Est-ce que le LOSC doit changer pour se relever? Bruno Genesio a dit qu'il sera bien là pour le match de Ligue Europa. On fera le point d'ailleurs sur les relations entre Genesio et l'Étang.
Pourtant, il avait.
La semaine dernière, on vous avait annoncé un fort RMC Sport qu'il avait proposé sa démission. Ouais. Démission refusée. Version contredite
refusée
par le club.
Mais que l'on maintient Olivier Létang.
À RMC. Parle Olivier Létang.
Mais pas forcément par les joueurs, parce qu'on l'a vu ce week-end.
Ouais, c'est vrai, on pourra en reparler. Et puis à 18h30, le procès.
Ils sont tous derrière le.
Ça s'est vu
contre Strasbourg.
Ah, surtout à 0-4.
Ah ouais, c'était dingue. 18h30, donc, le procès de la préfecture de Paris, qui interdit la venue des supporters marseillais pour deux matchs. Paris FC, OM, samedi, et ensuite le match entre le PSG et l'Olympique de Marseille. On aura deux procureurs et un avocat dans ce procès. Ne manquez pas ce grand rendez-vous à partir de 18h30. Il est 18h04 sur RMC. Tout de suite, Paris mise encore sur ses jeunes talents.
The Voice Kids, enfin de retour.
Il n'y a pas meilleur endroit pour grandir. Le projet actuel avec les jeunes est incroyable grâce à l'entraîneur.
Les fauteuils de The Voice Kids accueillent de nouveaux coachs prestigieux.
On est ouvert, la direction sportive avec Luis Campos pour chercher à améliorer encore l'effectif.
J'ai rarement vécu un début de battle aussi intense.
On a beaucoup de confiance de le coach. Il a fait très bon travail avec Luis Campos pour choisir les joueurs.
De nouveaux coachs prestigieux pour une saison incroyable.
Une équipe, c'est comme un puzzle, il faut que les pièces y font clic.
Petit par la taille, grand par le talent.
Aucun regret sur le mercato d'été, sur le.
Rien. Zéro regret, on a fait ce qu'on a pensé à faire.
The Voice Kids, nouvelle saison.
Cette veille de match, donc pour le PSG, demain c'est Ligue des Champions, la dernière journée de la phase de poule. PSG Newcastle. Une victoire devrait suffire au PSG pour assurer une place dans le top 8. Mais donc l'actu, c'est l'arrivée de ce jeune Dro Fernandez, 18 ans, milieu de terrain, qui arrive en provenance du Barça. 6 millions d'euros, c'était le montant de sa clause libératoire. On en parle avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut les amis. Salut à tous.
Tu étais au campus ce matin. Tu as donc assisté au premier pas de la recrue, comme ça, sous le maillot parisien. Un profil qui était ciblé par la direction parisienne.
C'est ça, parce que la direction parisienne, cet hiver, en fait, est plus dans un marché, une volonté d'évoluer dans un marché d'opportunités, on va dire. On n'est pas dans la dynamique de l'été, par exemple. On voulait cibler des postes en particulier, la défense centrale avec Zabarni, le gardien, ou même l'hiver dernier, quand on avait ramené Kvaratskhelia, parce qu'il y avait besoin de concurrence devant. Paris estime être assez fourni, on va dire, en termes de concurrence. Donc là, on est plus sur un PSG qui lorgne des profils jeunes, comme ils l'ont fait avec les Neves, les Doué, les Barcola, et dans une dynamique d'opportunités. C'est ce qu'ils ont fait donc avec Dro Fernandez, 5 matchs en pro seulement, donc ça reste un pari en quelque sorte, pas très cher, tu l'as dit Benoît, en soi, puisqu'il a été acheté alors un peu plus de 8 millions parce qu'ils ont fait un peu plus que la clause pour des raisons, j'allais dire, politiques et une bonne entente avec le Barça. Dro Fernandez qui a le même entourage, le même agent que Luis Enrique, donc ça a aussi un petit peu facilité le deal. Mais voilà la dynamique parisienne. Il s'est entraîné ce matin, tu l'as dit, il a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers, par Luis Enrique aussi, qui a expliqué ce matin son recrutement en conférence de presse.
Nous sommes signés des joueurs jeunes après savoir qu'il veut les parties de son dernière équipe. Et c'est ça qui représente pour nous être ouvert et être prêt dans le mercato. Et nous sommes les joueurs de qualité. Ce n'est pas facile de trouver des joueurs de qualité pour améliorer notre effectif. Je pense que dans l'avenir, Dro peut-être un joueur important. C'est important de rester ouvert au mercato.
Et il a répété ce matin, le mercato est ouvert encore pour le Paris Saint-Germain si jamais il y a par exemple d'autres ouvertures de ce type.
Merci Valentin, c'est la une du Rotten sans flamme. Est-ce que le PSG a raison de miser sur la jeunesse? On a regardé ce matin la moyenne d'âge de l'effectif parisien, c'est 23 ans. Donc effectif très jeune, Jérôme. Est-ce que c'est un bon pari de miser sur la jeunesse?
Bah écoute, le pari il est réussi, je crois qu'ils sont champions d'Europe, il me semble. Donc avec un effectif très jeune, ils étaient en avance, c'était pas attendu, on l'avait dit, hein, dernière, tout au long de l'année dernière, il s'était fait à l'idée de pas forcément gagner la Ligue des Champions dès l'année dernière, et ça a été fait à la surprise générale, certainement même au sein du club. Je pense que tout le monde a été surpris de l'évolution, de la progression de certains jeunes, avec des cadres qui étaient au rendez-vous. Tout s'est bien passé, les planètes étaient bien alignées, donc ils sont dans la continuité. Moi, je vous le dis sans cesse, parce que je connais bien ce club-là, et je sais exactement ce qu'ils veulent mettre en place depuis maintenant quasiment 3 ans. C'est une politique de jeunes, en effet, il y a une prise de risque. Alors c'est pas un centre de formation, hein, le Paris Saint-Germain, pour autant, mais ils veulent s'inscrire dans, si tu veux, les meilleurs jeunes de France déjà. Les intégrer au Paris Saint-Germain s'ils sortent pas de leur centre de formation. Et quand les jeunes français ne peuvent pas tous venir au Paris Saint-Germain, ou dans le style Luis Enrique, parce que c'est un style bien précis, on l'a vu là, tout au long de l'année dernière, surtout pour les milieux de terrain, je pense qu'il est ouvert un peu aux meilleurs jeunes étrangers. Et là, en effet, ils te disent que c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité sur le moyen terme. Attention, quand tu prends un joueur comme ça qui
150 minutes en pro,
qui a que 5 matchs en pro, bien sûr que il y a déjà la prise de risque, c'est que quand il va jouer, il va pas forcément être tout de suite opérationnel, il le sera, mais peut-être pas tout de suite performant. Et il faudra peut-être attendre, parce que c'est le défaut de la jeunesse, et on le voit avec certains, Mayulu entre autres. Moi, Mayulu, l'année dernière, c'est incroyable ce qu'il a fait. J'adore ce joueur, j'adore l'attitude. Après, il faut reconnaître que les performances, elles sont moins bonnes cette année, parce que peut-être du mal à gérer l'atmosphère, le niveau qu'il a mis en l'année dernière
c'est
en place.
Une crise avec... de croissance aussi, ça arrive non, parfois.
C'est un jeune joueur, donc c'est le défaut de la jeunesse. Ce que je veux dire, si les mecs à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils étaient déjà ultra.
Et c'est le même défaut qu'aura Dro Fernandez.
Défaut qu'aura Dro Fernandez. Le tout, c'est qu'il faudra être patient. Alors peut-être que médiatiquement, en effet, on le sera pas, parce que c'est le Paris Saint-Germain. Mais eux, je sais qu'en interne, ils seront patients. Et c'est pour ça
que tu le signes, c'est pour le faire jouer quand même. Hein. Mais... c'est pour être dans la rotation du milieu de terrain.
Oui, il sera dans le turnover, hein, ça c'est sûr et certain. Et après, aux côtés de Vitinha, Neves, je pense qu'il s'en sortira très bien. Ouais. On a vu le cas avec Zaire Emery. Quand il est arrivé, il a tout pété. Hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il pète tout d'entrée. Hein.
Mais Younes, ils savent aussi le club. Je sais parce que j'ai échangé avec les dirigeants aujourd'hui et ceux qui ont décidé de sa venue. Et ils te disent tous que de toute façon, il n'y a pas besoin de connaître parfaitement de football pour se rendre compte que ce jeune-là, il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent techniquement. Moi, j'ai regardé quelques vidéos, parce que je te dis, je ne le connaissais pas.
Des bouts de match qu'il a fait en
pro.
Ouais.
Des bouts de match, mais même en jeune, tout à l'heure, j'ai essayé de regarder. C'est vrai qu'il a l'élégance avec le ballon au pied. Il sait tout faire, pied droit, pied gauche, dans la vision. Tu as l'impression qu'en effet, avec les équipes de jeunes, il s'est régalé parce qu'il était en avance. Là, après, au niveau professionnel, ce qui va changer pour lui, c'est... il faut joindre, si tu veux, la technique, la vision avec le physique. Parce que physiquement, on le voit, là, c'est
il est léger,
le problème
il est...
qu'il a pour l'instant.
Ah, tu l'as vu, toi.
Il est mince.
Mais tu sais qu'ils te prennent.
Quand tu vois l'effectif du PSG, tu vois la moyenne d'âge et surtout les joueurs qui sont titulaires, comme tu vois Barcola, Doué, Mendes, ils sont tous en dessous de 25 ans.
Bah, hein,
ils sont tous
jeunes. Mais
ouais, c'est pour ça. Donc, il est dans la.
Donc, moi, ça me choque pas de cette politique de prendre des.
De toute façon, il y a pas.
Le passé, ils ont pris des joueurs qui étaient plus expérimentés, ils se sont cassés la gueule.
Il y a un seul trentenaire en PSG, c'est Marquinhos.
Mais de toute façon, c'est.
Le plus vieux, je crois que c'est Ousmane Dembélé. Donc,
non, c'est Marquinhos, 31.
Marquinhos.
Il y a Marquinhos, je l'ai oublié, ouais. Marquinhos.
Jean-Michel, donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de.
Non, mais. Bon, d'abord, je suis. Il y a jeune et jeune. Là, on parle d'un garçon qui a donc une centaine de minutes en.
Ouais, c'est un adolescent, quoi.
En première division. Ça me rappelle un jeune qui sortait du Paris Saint-Germain, je crois, et qui est allé à Saint-Étienne, qu'on présentait comme une pépite. C'était le terme à la mode. Il a fait une saison et demie moyenne et il a disparu des radars.
Ah ouais,
bah c'est il y a jeune et jeune.
C'était une autre période.
Le Caïs.
Comment c'était?
C'était
Aouchiche. Aujourd'hui en Écosse.
Si quelqu'un me dit où il est.
En Écosse.
Il me donnera une information.
Il est en Écosse, mais pas au Celtic ni au Glasgow.
Non, il est à Hibernian.
D'accord.
Aberdeen, pardon.
Et ça me rappelle ça. Non, mais les gars.
Aberdeen, ils sont
premiers. Ça ne peut pas être la politique quand on dit qu'on fait une politique que de vedettes. Eh bien, on s'en est aperçu au Paris Saint-Germain, à un moment donné. Il y avait ce fameux plafond que les Parisiens n'arrivaient pas à percer. Avec pourtant des Neymar, des Messi, des Mbappé, c'était incroyable. Hein, on faisait des transferts à 220 millions, à 70 millions, à 150 millions, et on n'y arrivait pas. Et de la même manière, au risque de jouer les pisse froid, je vous dis que je ne crois pas, et surtout pas, dans un club comme le Paris Saint-Germain, qui doit être au top niveau du début à la fin. Alors il peut se contenter parfois d'être en mode tranquille dans certains matchs, et notamment dans la Ligue 1 française. Ça, il n'a pas besoin d'être à 100%. Voilà.
Quoique cette année, ils forcent un petit peu, parce que par moment, ils se font accrocher en Ligue 1.
Oui, j'entends bien. Par moment, et peut-être... Et peut-être, je te le souffle comme ça, Jérôme, peut-être que c'est parce qu'ils ont voulu faire une politique de jeunes.
C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord.
Lorsqu'il y a des titulaires absents pour blessure ou suspension,
ça se ressent tout de suite.
Ils mettent des jeunes et comme par hasard, tu me dis, moi je ne pense pas, mais bon, je suis un tout petit peu plus optimiste que toi, Jérôme, mais je ne crois pas une seule seconde que la nouvelle politique du Paris Saint-Germain soit une politique de jeunes.
Bah si,
si Jean-Michel.
Ils l'ont quand même souvent répété, on a serré la phrase à Philippe Campos.
Mais qu'est-ce qui te dit le contraire?
Que l'homme. Eh bien, s'ils font ça, c'est pour moi une erreur.
Mais c'est ce qu'ils ont fait tout au long depuis 3 ans. Allez, c'est un peu ça, non?
Non, mais il y a jeunes et jeunes. Tu ne vas pas comparer l'expérience de Neves avec l'expérience de Dro Fernandez. Tu ne vas pas comparer. Même Barcola, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il avait 70 matchs de Ligue 1 dans les pattes. Il y a jeune et jeune,
non,
les gars.
Non, mais on est d'accord.
Dans l'immédiat, le PSG, ils ont besoin de personne. Hein. Ils ont besoin de personne.
Avec de rotation un peu, Younes, quand même.
C'est pour ça qu'ils misent sur des jeunes. C'est pour ça qu'ils misent sur des jeunes.
Ouais.
Je
pense que avec l'effectif qu'ils ont et la Ligue 1, ils vont la prendre. Et en Ligue des Champions, il faut juste qu'ils élèvent.
Mais justement, regardez l'exemple de l'an dernier. Ils sont allés chercher Kvara assez cher au mercato d'hiver et ça leur a comblé une carence qui leur a permis d'être bons sur la deuxième partie de saison.
Ne présente pas le truc comme ça.
Mais là, il est en Doué, Barco, là, tu as des joueurs. Mais
Kvara, c'est pas tombé du ciel. Ça fait deux ans qu'il l'a mis à la carence
et des ouais.
Un jeune comme Trop Fernandez et des jeunes comme Neves qui sont jeunes. Ou Nuno Mendes.
C'est pas les mêmes jeunes, ça, on est d'accord.
C'est pas des jeunes, tu l'as vu l'année dernière. Il était la pièce maîtresse du jeu parisien l'année dernière.
Ils ont gagné les champions, si plus jeune.
C'est un jeune, mais qui est pièce maîtresse
du jeu parisien. Écoutez-vous, vas-y, Jean-Michel.
J'aimerais bien que le Paris Saint-Germain fasse une politique de joueurs confirmés de talent et parallèlement une politique de jeunes.
Mais c'est ce qu'ils font.
N'empêche pas l'autre. Non, puisqu'ils disent, Alors, la question est pas bonne. On m'a parlé que c'était la nouvelle politique. C'était une politique de jeunes.
Non, c'est parce que en fait, alors, quand ils te disent ça, non mais Jean-Michel,
moi, j'écoute bêtement le conducteur de l'émission. Moi.
Mais c'est pas une question d'être. Younes, il vient de te le dire. Et c'est vrai que moi j'ai la même vision que Younes. Aujourd'hui, en joueur d'expérience, je te parle. Le PSG a besoin de personne. Ils sont champions d'Europe, les mecs, ils ont excellé l'année dernière. Qu'est-ce que tu vas rajouter un mec d'expérience à ce collectif? C'est pas possible. Ils ont déjà pris, si tu veux, des doublures sur le mercato d'été, c'est-à-dire la doublure à Marquinhos, Zabarni, qui est quand même un jeune joueur avec de l'expérience, pas la même genre de joueur que Dro Fernandez. Jean-Michel, je suis d'accord avec toi.
On est bien d'accord.
Mais derrière, n'empêche que. Vu que t'as pas besoin de rapporter encore plus d'expérience à ce collectif, t'es obligé de te tourner vers des jeunes joueurs. Donc, tu peux avoir l'opportunité, parce que c'est une question d'opportunité, de prendre des mecs comme Neves ou Nuno Mendes à l'époque quand ils sont arrivés, ou même Vitinha. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité comme ça. Peut-être que c'est trop cher quand ils regardent autre part qu'en France, c'est-à-dire en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou au Portugal. C'est peut-être trop cher aujourd'hui. Donc, ils ne font pas ce genre d'efforts pour ces jeunes joueurs-là. Oui. Et ils se retournent vers des beaucoup plus jeunes où là, t'es presque en formation encore. Dro Fernandez, en effet, c'est un joueur. C'est pour ça que je te donnais l'exemple tout à l'heure, peu de Mayulu.
C'est le joueur complément.
Et c'est l'exemple qui est.
En plus, Jérôme, c'est le style. De joueurs du coach parce que
en plus
c'est son équipe tu vois et un jeune qui arrive comme ça il sait ce qu'il va lui demander et le jeune on en reparlera mais moi j'en suis sûr qu'il marchera
et on verra autre argument avant d'accueillir Thomas c'est que ok tu prends un jeune qui termine sa formation de 18 ans Dro Fernandez mais est-ce que en le prenant tu bouges pas une porte à un autre qui sort de ton centre de formation est-ce qu'en prenant Dro Fernandez tu vas pas limiter le temps de jeu de Mayulu ou de Njonto ou d'un autre
mais ils sont pas complètement bêtes
c'est là où c'est bizarre la politique en fait
mais c'est pas bizarre c'est qu'il y a un joueur comme Dro Fernandez je te le dis parce qu'ils me l'ont dit aujourd'hui
ouais.
Ils en ont pas au centre de formation ou des jeunes joueurs.
C'est
quel
poste ?
Ils sont
dans les trois milieux de terrain.
Oui, mais ils ont pas ce.
C'est le poste de Mayulu.
Non, mais ça va pas empêcher Mayulu de jouer. Mayulu, il est pas au même niveau que Dro Fernandez, rassure-moi. Même si. Mais Mayulu, ben moi je vais te dire ce qu'ils m'ont dit parce que c'est comme ça et il y a pas que le staff, il y a aussi le staff médical qui est en soins ou les préparateurs physiques. Ils te disent que Mayulu, quand il est arrivé. Donc c'est maintenant il y a deux ans à peu près dans l'effectif qu'il a commencé à jouer. Il était frêle comme Dro Fernandez aujourd'hui. Tu vois les jambes de Dro Fernandez, ça fait flipper. Tu te dis oh là là, putain, il va falloir qu'il soit bon, qu'il fuit un peu les duels, sinon il va se faire ramasser en Ligue 1. Je te le dis, ça c'est clair. Mais ils sont prêts à attendre, si tu veux, que lui se transforme physiquement comme Mayulu s'est transformé.
Mayulu dans la hiérarchie est devant Dro Fernandez.
Et bien sûr, déjà parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Il est quand même champion d'Europe. Avec ce PSG-là, en ayant, alors même si vous avez joué sur les mots la dernière fois, c'est Jean-Michel, il a pas beaucoup joué.
Non, j'ai pas joué sur les mots.
En Ligue des Champions, il a pas beaucoup joué l'année dernière, mais en Ligue 1, il a quand même beaucoup joué. Et là, il a beaucoup joué depuis le début de saison, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. En effet, depuis le début de saison, si tu veux, ce qu'il voit.
C'est le huitième temps de jeu de l'effectif.
Il a tellement bien joué qu'on lui a pris en remplaçant. Donc
non, c'est pas vrai.
Mayulu, champion d'Europe et déclassé.
Après, Mayulu, il joue partout cette saison. Latéral droit.
Les joueurs qui jouent partout, ils jouent nulle part.
Non,
c'est ça. On dirait
que je pense que c'est vraiment le choix de l'entraîneur de prendre Dro. Donc, je pense que c'est le style qui correspond. Et dans le milieu qu'il a, il se fondra plus et ça le facilitera.
Oui, il va le façonner.
Accueillons Thomas, supporter parisien, Jérôme.
Salut Thomas.
Salut Jérôme.
Bienvenue Thomas. Bon, Alors, salut, est-ce que t'es satisfait, toi, déjà d'une recrue comme Dro Fernandez aujourd'hui?
Non, moi, je vais pas dire que je suis satisfait parce que forcément, j'ai vu le profil du joueur. On est peu à l'avoir vu jouer.
C'est vrai.
Maintenant, on se doute un peu du profil qu'il a en fait aujourd'hui, parce qu'on sait comment la direction fonctionne sur et travaille sur les sur le recrutement. Maintenant, c'est vraiment identifier jeunes pépites pour les façonner, les développer au sein du club. Alors moi, c'est plus ça qui me plaît en fait, c'est cette stratégie là parce que c'est un projet sur du long terme, mais en même temps tu peux gagner sur du court terme, et on l'a vu, le plus bel exemple, ouais, c'est la victoire en Ligue des Champions. Donc c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait c'est aussi des joueurs qui vont maintenant, en fait t'as inversé un peu la donne, c'est-à-dire que tu peux présenter en fait un projet à des jeunes joueurs en disant, mais écoute, viens à Paris, tu vas avoir ta chance, tu vas jouer, on va faire en sorte que tu
ça,
sois un bon joueur. Et alors qu'avant tu vois, le dernier exemple en date pour moi, c'est un mec comme Ekitike, le joueur où il arrive à Paris, mais c'est bouché de chez bouché.
Ah, c'était notre époque, tout à fait.
Ouais, et puis c'est pas si loin que ça.
Et puis t'es obligé de mettre.
Ouais, il pouvait pas jouer.
Et t'es obligé de mettre 50 millions, je sais plus combien c'était, voilà. Ouais.
Et c'est ça, donc c'est pas.
Et devait être trois joueurs qui sont en fait. C'était 30 millions, donc, 35, je crois, 35.
Voilà, donc ce qui me plaît à la rigueur, c'est cette nouvelle politique en fait que tu mènes à travers ces profils-là. Après, forcément, je me doute que Luis Enrique est derrière tout ça, donc forcément, le gamin, il a du ballon. Et puis après, on verra ce que ça donne. Mais moi, j'ai pleinement confiance en cette politique-là. Et vous parliez de Mayulu, des jeunes qui sont déjà présents en club. En fait, la direction, ils vont pas bosser qu'en se disant, ah bah c'est bon, on a Mayulu, on a d'autres pépites.
Bah oui.
Croyez-moi, ils sont déjà en train de travailler sur d'autres profils, d'autres jeunes très très bons.
Surtout que t'as Zahir Emery qui a basculé arrière droit, donc ça te libère une place au milieu.
Oui, et puis à l'inverse, quand Hakimi revient, par exemple, tu vois, il peut aussi étoffer le milieu. Et, ouais, et voilà, des joueurs comme ça, forcément, c'est dans une saison, t'as toujours besoin de ces gars-là. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment... Ça me plaît, en fait, de voir ces gars-là s'inscrire dans la durée.
T'aimes bien
Non, mais Thomas, là où t'as raison, et c'est vrai que c'est au club, c'est ce qu'ils te disent aussi, là où ils sont contents, si tu veux, d'avoir réalisé ce coup-là, c'est que ce joueur-là, quand il a annoncé, parce qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas, lui, le joueur, avec son entourage, avec ses agents, été voir Barcelone en disant nous on veut partir parce qu'il y a pas
c'est le même agent Valentin Gladi que Luis Enrique, Ivan de la Peña,
exactement, mais n'empêche que peut-être que ça a facilité les choses, c'est sûr, dans le relationnel, mais après le joueur c'est lui qui décide. Ce que je veux dire là où ils sont contents, le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils se disent mais le mec il aurait pu, parce qu'il avait beaucoup d'offres, hein, beaucoup de contacts en Angleterre surtout, il aurait pu choisir un club anglais qui est aussi très important, il choisit le Paris Saint-Germain. Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui,
enfin, le coach te veut, c'est un ami de ton agent, t'es champion d'Europe.
Non, mais ce que disait Pacho aussi, c'est que tu sais qu'à Paris, tu vas jouer quand t'es jeune, quand tu vois qu'il a fait jouer énormément de joueurs, même de moins de 20 ans.
Tout Luis Enrique qu'il est, si le PSG avait pas grandi, même avec du temps de jeu promis, je pense que le mec aurait préféré aller jouer avec Guardiola, parce que Guardiola est totalement et les mecs ils réfléchissaient même pas, ils se disaient bon, Paris c'est très bien, Luis Enrique c'est fantastique, Luis Campos, nanana, il me donne tel salaire, mais je vais aller prendre des références avec Guardiola. Mais oui, alors que là, ça s'inverse un petit peu. Bah, tant mieux.
Merci Valentin Germain d'être venu.
Demain, c'est pas demain. Il est pas sur la liste de Newcastle, mais
et il intégrera peut-être pour le barrage.
Et ce week-end à Strasbourg.
Pour les huitièmes de finale direct.
Pas à Strasbourg, mais il va pas tarder. De toute façon, il va jouer un peu.
Merci Valentin. Demain, PSG Newcastle à 21h sur RMC et dans un instant. Le procès de la préfecture de Paris qui interdit la venue des supporters marseillais, notamment samedi, pour le match au Paris FC. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h29 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. C'est la deuxième demi-heure avec Younes Belhanda, avec Jean-Michel Larquet et Benoît Boutron. À 18h45, Daniel Riolo s'est invité dans Rotten sans flamme. Membre éminent, forcément le membre de l'After.
Eh oui.
Voilà, les 20 ans de l'After.
Eh oui.
Eh oui, c'est 20 ans.
Et on est content de le recevoir.
20 ans qu'on l'entend.
Il va nous expliquer pourquoi la Super League peut sauver le foot.
Donc il y a un des saucisses en 20 ans.
À 18h45.
Pas que des saucisses, hein, parce que ça, il ne va pas être content si je dis ça.
Mais nous peut pas ce...
à lui tout seul. Ouais.
Ne loupe pas ce grand moment, mais ça lui fera plaisir de vous retrouver à l'antenne.
Jean-Michel. Ça va lui faire plaisir.
Bah, oui. Mais pourquoi il a ouvert une pizzeria? C'est vrai qu'il aurait pu ouvrir une charcuterie.
Ah bah on lui posera la question. C'est une bonne question à lui poser, ça. Mais tout de suite, parlons donc de l'interdiction de déplacement des supporters marseillais.
RMC, Rotten sans flamme.
Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football?
J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais
connais Zazie, bon,
Zazie, ouais.
je l'adore comme joueur. Ouais.
Le procès de Rotten sans flamme.
Ça vieillit pas, ça marche toujours. C'est incroyable.
Ah, c'était fou ça. Quand
même. Ah, c'était fou. Ouais. À l'époque, Jean-Michel Larquet, c'était Zazie, le foot comme on
Zazie.
L'a dit. Alors, la préfecture de police de Paris a donc interdit le déplacement des supporters marseillais
entre lui et Jacques Chirac
pour le match au Parc des Princes déjà le 8 février. Donc, les justifications, c'est qu'il y a un antagonisme jugé trop fort entre supporters du PSG et de l'OM. Je rappelle que le dernier match entre Paris et Marseille avec des supporters marseillais au Parc, c'était le 28 février 2018. 400 supporters de l'OM avaient fait le déplacement. Ils avaient arraché les sanitaires et jeté des sièges en fin de match. Ça s'était mal passé. Depuis, il n'y a pas eu de supporters marseillais au Parc ou de supporters parisiens au Vélodrome. Les associations de supporters précisent qu'il n'y a aucun dialogue à l'heure actuelle avec les autorités. Les groupes de supporters militent pour le retour des supporters marseillais au Parc. C'est le cas notamment du collectif Ultra Paris. Et puis surtout, ce qui a fait réagir la direction marseillaise, c'est cette autre interdiction de déplacement pour les supporters de l'OM ce samedi face au Paris FC à Jean-Bouin. Donc c'est à 50 mètres du Parc des Princes. Décision dénoncée donc par l'OM dans un communiqué. Ouvrons donc le procès de la préfecture de police de Paris qui a interdit la venue des supporters de l'OM. Deux procureurs, Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Younes Belanda, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de la préfecture ce soir, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Oh. Bonsoir. Non, l'avocat du football, pardon.
Commis d'office. Commis d'office, Jean-Michel Larquet. Et le juge, ce sera Gabriel, qui est officier de police judiciaire et qui est supporter parisien avec nous au 32-16. Salut Gabriel.
Je t'adore, Gab.
Magnifique. Ah. Tu es l'interlocuteur parfait pour trancher dans ce procès.
On va essayer.
Vas-y, Jérôme, alors, quel est ton point de vue sur cette histoire?
En fait, tu viens de le dire, il s'est passé des choses depuis pas mal d'années avant que. On ait des interdictions permanentes tous les ans pour que les supporters de l'Olympique de Marseille viennent ici au Parc des Princes ou à Paris, parce que là en l'occurrence c'est à Jean-Bouin qui sont interdits, et les supporters parisiens ne viennent plus au stade Vélodrome. Donc ça fait maintenant, c'est la 8e année. Donc moi je veux bien entendre qu'au départ c'est très chaud, parce que la dernière fois, et tu l'as dit, les faits, il y a eu beaucoup de bagarres, des soucis même dans la ville. Donc ça, je peux comprendre que les autorités, elles aient autre chose à faire que de gérer des supporters hystériques qui sont là juste pour casser et pas encourager leur équipe. Mais 8 ans, ça commence à dater quand même, tu vois. Alors je veux bien que les premières années, on interdise et qu'il y ait une prise de conscience. J'imagine quand même que dans les groupes de supporters, même s'il n'y a pas que des gens bien intentionnés, il y a quand même les garants de la bonne ambiance, si tu veux, les capots ou ceux qui dirigent les groupes de supporters ont pris conscience aujourd'hui que il y avait un réel problème
d'ambiance, d'engouement, de
non,
tout ça.
Non, et que ça dépassait les bornes tout simplement. Donc il y a une prise de conscience parce qu'ils en parlent beaucoup. Je pense honnêtement que les préfectures de police seraient bien, ça serait bien qu'ils fassent le premier pas aussi et qu'ils acceptent d'échanger avec les groupes de supporters pour se rendre compte aussi de l'amélioration dans leur groupe de supporters. Moi, j'ai pas l'impression, pour parler du Parc des Princes, moi je viens à chaque fois, ça se passe bien. Ça se passe bien, le collectif Ultra Paris, il y a pas de débordement. Alors oui, il y a des fumigènes de temps en temps et le club est sanctionné, mais comme à Marseille, ça a été le cas sur le dernier match où contre Lens, la tribune nord, je sais pas dans quel sens c'est, mais elle était fermée. Donc il y a pas de souci, mais c'est juste pour des fumigènes, c'est pas pour autre chose. Après, en effet, donc une fois que tu as dit ça, sur les premières années, les interdictions sont logiques. Mais ça fait 8 ans, ils demandent que ça. Et moi, je pense que les autorités et la préfecture de police devraient en effet échanger un peu plus, que ça soit avec les groupes de supporters, que ça soit avec les acteurs, pour se rendre compte en effet que on fait, c'est le sport numéro 1. Ça fait beaucoup parler. Et on a quand même, le football représente beaucoup pour notre société ici en France. Donc pas qu'en France, dans tous les cas. Et ben pour améliorer les choses, rencontrer aussi les acteurs. Et vous verrez que les joueurs, ils attendent aussi que ça, de pouvoir communier. Moi, pourquoi ça me fait quelque chose quand les équipes adverses.
T'as connu les deux cas de figure, toi?
Oui, parce que je l'ai connu. Et c'est vrai qu'il y a des climats hostiles. Alors, le climat hostile, c'est quand Marseille vient au Parc des Princes, bien sûr que les joueurs, ils se font un peu massacrer dans tous les sens, dans les champs, dans les comportements. C'est très hostile. Il faut être costaud pour sur le terrain, tirer le max. Mais franchement, quand t'arrives à prendre le dessus sur ce climat hostile et t'arrives à faire une bonne performance collective, parce que c'est ça le charme du football, c'est qu'ensemble on arrive à renverser une équipe qui est poussée par 50 000 personnes comme ça sera le cas au Parc des Princes. Putain, quand t'as...
Jérôme, je rebondis sur toi et comme les joueurs quand ils sont à l'extérieur et qu'il y a leurs supporters, ils sont motivés aussi.
Mais oui, tu vois, mais c'est pour
Marseille,
ça.
Et ils vont au parc avec leurs supporters.
Eh oui, ça les galvanise.
Tu pars pas tout seul, tu vois.
Et c'est pour ça. Et franchement, Younes, et je vais te laisser la parole, mais là-dessus, mais je finis là-dessus. C'est que une fois que t'as réalisé une bonne perf, t'es l'Olympique de Marseille. Putain, mais le charme du foot, c'est de communier ça aussi avec tes supporters. Ils sont là, ils représentent, ils sont peut-être 400, 500, 600, 1000, je sais pas combien ils peuvent venir au Parc des Princes. Putain, tu communies ça, bien sûr que ça fait, il y aura du chambrage avec les supporters.
Pas que ça dépasse les limites, c'est toujours le problème.
Mais écoute,
tu peux l'encadrer, ça. Tu peux
l'encadrer. Tolérance zéro,
c'est tout. L'encadres. S'il y a des débordements, c'est fini à vie. C'est fini à vie. Mais si tu retentes pas, on y arrivera jamais, en fait.
Tu les encadres, en fait. Du départ à l'arrivée au stade, au retour, tu peux les encadrer. Tu peux même mettre un système de fichage. Je pense que maintenant, dans les stades, avec toutes les caméras qu'il y a, tu sais qui est qui, tu sais les supporters qu'il y a. Donc, tu peux ficher, tu peux sanctionner. Et tu vas pas m'expliquer qu'en Ligue des Champions, quand le PSG reçoit les hooligans d'Angleterre, d'Hollande, qui viennent, c'est pas plus dangereux que les Marseillais.
Ah bah si, c'est
donc
plus dangereux.
Ça, moi, je le comprends pas. Bah, alors, comment il interdit
pas? Et les Turcs aussi.
Et les Turcs aussi. Donc, tu vois, c'est plus compliqué, je pense, que des supporters qui viennent de l'étranger, que nos propres supporters en France, quand même. Tu peux quand même bien t'organiser et organiser un voyage. Moi, ça, je le comprends pas.
Alors, parlons de la défense. L'avocat commis d'office, monsieur Larquet.
Non, je suis pas commis d'office, mais j'ai écouté dans les remèdes, j'en ai pas entendu beaucoup, des remèdes. On peut encadrer, sauf que ça n'a jamais été fait. Alors, je vous rassure, à la fin, je pense qu'on va se retrouver. Peut-être que le constat sera à peu près le même, Jérôme et Younes. Peut-être. Mais si tu veux, à un moment donné, quand je vois des tribunes vides, des gradins vides, parfois des terrains suspendus, c'est pas tout à fait le fait du hasard, Jérôme. Je pense qu'il s'est passé quelque chose.
J'ai dit les fumigènes.
Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans... Et pas forcément que des fumigènes.
Ah bon, c'est quoi alors? Fumigènes.
Il y a eu peut-être des envahissements de terrain, peut-être, Jérôme, j'en sais rien.
Pas au Parc des Princes, pas à Marseille, j'ai pas vu.
Je te parle d'une manière générale. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose. Donc, il y a peut-être parfois à balayer devant sa propre porte. Mais de l'autre côté, quand j'entends, il y a qu'un faucon. Mais la préfecture de police a pris une bonne décision parce que pour une fois, parce que ça se répète, mais elle est devenue à peu près lucide. Parce que malheureusement, et je regrette que je vais être peut-être un peu brutal envers Gabriel et ses hommes, mais depuis des années et des années, en dehors du stade, dans le stade, ils n'ont pas à faire la police, en dehors du stade, partout où ça s'est passé, l'État français et sa police ont été incapables de faire régner l'ordre et que les choses se passent à peu près normalement.
Ça fait 8 ans qu'ils viennent plus. Comment tu peux te rendre compte?
Ça fait huit ans. Donc aujourd'hui, ils ont un soupçon de lucidité. Je parle pas d'incompétence.
C'est la facilité plutôt.
Ils ont un soupçon de lucidité. Je parle pas d'incompétence. J'irai pas jusque là parce que je ne veux pas heurter Gabriel.
Et tu veux pas perdre le procès?
Mais ils sont simplement, ils savent très bien qu'ils sont incapables, s'il y a un mouvement de foule. Ils sont incapables aujourd'hui, avec 500 ou 1000 supporters, de rétablir l'ordre dans des proportions normales.
Bah, moi, je
donc,
pense pas.
Au lieu de, donc, je les défends parce qu'au moins, il y a le principe de précaution. Bon. Là, c'est le principe de réalité.
Bah, précaution, moins, à Jean-Bouin, il risquait quoi alors?
Des affrontements avec des supporters parisiens qui seraient venus à la rencontre des supporters marseillais. Non, mais ça, c'est.
Bien sûr.
Si tu le fais pour le PSG, tu le fais pour le PSG.
Jérôme, tu sais très bien que c'était sur le parking, ex-parking Guilbeau, que c'était un parfait ring de boxe.
Oui, je suis derrière le parquet principal.
Mais maintenant.
Tiens, Gabriel, rends ton verdict.
Moi, je dis que.
Ce que j'entends de la part de Jean-Michel Larquet sur. La police, là, ça, franchement. Ça
non, mais essaye pas de soudoyer le juge. Oh.
Ah ouais, c'est vrai.
Non, vas-y, Gabriel.
Je suis avec toi,
Jean-Michel. Oui. Moi, je suis avec vous.
Alors, je vous embrasse. Je vais essayer de. On va essayer de synthétiser les propos des uns et des autres. Donc, on a d'un côté Younes et Jérôme qui militent pour un retour des supporters, ou en tout cas qu'on réessaye, afin de voir si effectivement les choses se passent à peu près bien. C'est un peu mon idée aussi, hein, parce que je suis supporter parisien et je trouve dommage, quelles que soient d'ailleurs les entités, hein, que les supporters soient interdits de déplacement. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui m'apparaît un peu démesuré au regard des faits récents, puisqu'il n'y a pas eu de... en tout cas en France, que ce soit les supporters marseillais ou parisiens dans leur déplacement. Non, mais si, parce que alors il n'y a pas de déplacement parisien à Marseille ou de déplacement marseillais à Paris, mais tu as des déplacements des équipes ailleurs et il n'y a pas de problème. Je veux dire, le club se déplace quasiment toute l'année dans énormément de stades.
Le stade brestois, les ultras devaient passer devant la justice. Là.
Ah oui, mais attention, il y a eu de graves incidents avec les ultras brestois, il y a eu des bagarres, etc.
Moi, je veux bien qu'il ne se passe rien ailleurs.
Mais on parle de Paris et de Marseille, là.
Il n'y a pas de problème.
Après, malheureusement, et je pense que c'est la réaction de la préfecture de police, hein, qui est motivée comme ça, c'est que malheureusement, comme là, vous venez de l'aborder pour le stade brestois, il y a toujours le risque. Et la préfecture de police ne prendra pas le risque d'exposer, on va dire, les tierces personnes qui sont autour à des risques de bagarres violentes. Pas qu'on pourrait ne pas les juguler, hein, contrairement à ce que dit Jean-Michel, hein, c'est juste une question de mettre les hommes qu'il faut et bien prévoir le truc. Sauf que au regard du bénéfice-risque, ça va être de toute façon un déplacement limité de supporters, donc en gros 400, peut-être 600 supporters marseillais. Mmh. Et en gros, on va devoir mobiliser sur tout le trajet entre Marseille et Paris. Il va falloir mobiliser quasiment le quadruple de fonctionnaires pour ça. Je suis pas sûr que effectivement le jeu en vaut à la chandelle et effectivement le moyen le plus simple de contrôler, c'est d'interdire.
Bon. Voilà. Et tu donnes la victoire à qui, Gabriel, alors?
Avec ce qu'il vous a mis à la police, Jean-Michel.
Non, c'est pas trop. Non, mais bon, ça, je veux mettre ça sur le.
Il a dit que vous étiez incompétent.
Oui, mais.
Il ne parle pas
des hommes sur le terrain, hein, au niveau de l'incompétence. Il parle de ceux qui sont au-dessus des preneurs.
Il aura une convocation judiciaire.
Franchement.
Mais non, pour moi, Younes et Jérôme, parce que je considère que oui, au bout de 8 ans, on doit laisser les supporters se déplacer et on doit réessayer. Et effectivement, aborder ce dialogue me semble quelque chose de sain et qui irait dans le bon sens.
Merci Gabriel.
Merci Gabriel.
Bon courage à toi.
Et on en profite pour embrasser tous les policiers de France. Pas facile.
Merci pour eux.
Merci Gabriel. À bientôt sur RMC.
Surtout ceux sur la route. Hein,
Incroyable.
Et la BAC du 92, je vous embrasse. Ouais, et du 78 aussi. Ils nous écoutent tous les jours, la BAC du 78.
De aussi,
je vous embrasse.
Allez, dans un instant, dans Rotten sans flamme. Allô Jérôme, Daniel Riolo avec nous pour nous expliquer que la Super League peut sauver le football. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h49 sur RMC, les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme avec le Allô Jérôme qui va arriver dans un instant, après 19h. On est de retour aussi avec Younes Belhanda, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Benoît, au programme.
Est-ce que le LOSC doit changer pour se relever? Est-ce qu'on peut continuer avec Bruno Genesio ou est-ce qu'il faut changer d'entraîneur? 32-16, supporter lillois pour participer.
Il joue gros jeudi. Hein.
Avec nous. Mais tout de suite, c'est donc le Allô Jérôme.
RMC, Roten sans flamme.
Quand tu réponds à Jérôme, cet argument qui est absolument... Mais c'est le pire des arguments de la Terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. Parce que sinon, ça veut dire que les goûts et les couleurs... Mais non, c'est pas un argument. Sinon, ça veut dire que tu peux préférer... J'en sais rien, mais tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane. Parce que le goût et les couleurs... Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde.
Allô, Jérôme.
Daniel Riolo est donc avec nous dans Roten sans flamme ce soir dans le Allô, Jérôme. Salut, Daniel.
Salut, Daniel.
Salut. Salut les amis, ça va ?
Bah ça va, super. Merci d'être là. On va te récupérer en régie, Daniel. On a un petit décalage. Je vais juste replanter le décor. Le sujet pour lequel tu interviens donc dans Roten sans flamme. Hier soir, débat Jérôme, Younes et Jean-Michel autour de la Ligue des Champions et de cette nouvelle version, donc cette poule unique à 36 clubs. Seules 7-8 équipes qui peuvent espérer la gagner. C'était l'avis de Daniel. Les plus gros budgets. Donc à partir des quarts de finale, il n'y a plus de suspense. Et pour Daniel, en gros, les trois quarts des clubs sont là. Pour toucher le chèque de la Ligue des Champions, aller espérer aller en barrage et ensuite se qualifier pour l'édition suivante grâce au championnat national. Daniel, c'est de là-dessus, c'est sur ce sujet que tu voulais intervenir et pour lequel on t'appelle ce soir.
Écoute, Benoît, Jérôme, je crois qu'il y a Younes et Jean-Michel.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Les quatre, ouais. En fait, moi, ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là et qu'on me dit, je veux surtout pas rentrer dans l'eau.
Ah, on va te retrouver, Daniel, dans un instant.
Ça marche bien, hein.
Ouais, on va retrouver Daniel qui reçoit des appels en même temps. Ouais, c'est trop d'émotion d'arriver dans Roten sans flamme, je pense.
il était attendu, hein, la Super League.
Non, mais c'est un vrai débat. On a déjà fait le débat du format, nous, la semaine dernière. Non,
moi, de toute façon, alors j'attends.
On y est déjà un peu, hein, les gars.
C'est ça.
Bah, c'est le débat. Oui, mais
petit à petit, notre ami Infantino. Lâche du lest, la Ligue des Champions, le nouveau format de la Ligue des Champions ne se cache pas. C'est un peu une Super League déguisée jusqu'au 8e, jusqu'au 8e.
De toute façon, c'est pour ça qu'ils l'ont. C'est pour ça qu'ils ont changé la formule. Pour combattre la Super League. Exactement. Qui était annoncée.
Ouais, Daniel, c'est ça.
Pardon. Excusez-moi, il y a eu un problème. Oui, je disais à contre-cœur. Moi, je suis un peu résigné à cette idée. J'ai entendu un débat aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez parlé de ce qu'a dit De Zerbi sur le match historique demain soir. Mmh. Bon, ok. On va débattre. C'est historique, c'est pas historique et tout. Mais en fait, aujourd'hui, un club comme l'OM, qui est notre deuxième plus gros club dans notre championnat, le club phare, on le sait tous à quel point il est important dans l'histoire de notre football. Mais de quelle façon, ce club aujourd'hui peut marquer l'histoire? Il ne peut plus être champion. Ou quasi pas, on va dire, on est à 80 ans, même pas, 90-10. Il faut que le PSG y ait hécatombe et tout. Et aujourd'hui, avec les moyens qui sont les siens, puisqu'il y a un ticket d'entrée pour être dans le top 8 européen, qui est un certain budget. Alors évidemment, à chaque fois, on me sort l'argument de la surprise qui arrive une fois tous les 10 ans, d'une petite équipe qui traverse un peu, qui fait un truc. Ça, c'est l'argument massue, à chaque fois je le prends sur la tronche, mais pour moi, l'argument exception n'est pas un argument. Donc je reprends sur l'OM. L'OM aujourd'hui, quand on dit ils peuvent sortir de la poule demain, je suis désolé de dire que quand tu l'as pas fait depuis 10 ans, quelque part, c'est pas un exploit, je veux pas exagérer, mais c'est déjà hors de la normalité. Pour l'OM, on est d'accord. Ouais. Et si on va plus loin, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire, l'OM? Quel peut être l'espoir véritable d'un OM avec son budget, à part de dire ce que dit Pablo Longoria, ce que dit également Mehdi Benatia, nous, priorité championnat, parce que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on revienne. Donc si jamais on sort de la poule, et puis de toute façon après, qu'est-ce qu'on va faire? On va se plier en quatre, mais on perdra, si c'est pas en huitième, on perdra en quart, parce qu'il y a des équipes qui sont beaucoup trop fortes, et peut-être qu'on va même laisser des forces, et qu'on reviendra pas en Ligue des Champions, parce qu'on aura usé de force, et dans le championnat, on va se faire doubler, et ce sera la catastrophe financière, et le club va s'écrouler. Et en fait, la plupart des clubs en Europe aujourd'hui ne sont là que pour éviter la catastrophe financière. L'objectif, c'est éviter la catastrophe financière en visant la Ligue des Champions, en y allant pour prendre le chèque et en espérant rien du tout. Parce qu'au fond, la vérité entre nous, à part de se taper la honte s'ils ne sortent pas de la poule, l'OM, à part la honte, qu'est-ce qu'ils risquent? De toute façon, le 16e, là, le play-off, c'est comme un 16e, ou le 8e,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'accrocher dans leur salon, dans la salle des trophées. J'ai fait play-off ou j'ai fait huitième. On sait très bien qu'ils iront pas plus loin.
Après, tu peux
rêver.
Vas-y, Jean-Michel.
Daniel, je pense que le dirigeant, parce qu'il y en a qu'un, hein, c'est Infantino. Le dirigeant pense comme toi. Hein. Il ménage la chèvre et le chou sur le plan sportif.
Ouais.
Il fait à minima, mais il le fait quand même. Il y a quand même une petite direction qu'il prend vers la Super League au travers du championnat du monde des clubs, au travers...
Mais bien sûr
Et de l'autre côté, il ménage son élection.
Mais Jean-Michel, Jean-Michel, excuse-moi de te couper, tu sais quand même pourquoi ce mondial des clubs a été créé. Parce qu'il fallait de nouvelles rentrées financières et surtout il fallait contrer ceux qui forcent à mort l'organisation.
C'est bien ce que je te dis.
Se bouge de temps dans tous les sens pour créer des rencontres de gala. Parce qu'un club comme le PSG aujourd'hui, il a besoin de rencontres de gala pour faire rentrer de l'oseille, pour la notoriété, développer le business dans le monde. C'est pas la Ligue 1, c'est pas sur la Ligue 1 qu'ils vont faire du business.
On est raccord là-dessus et parallèlement, comme je te disais, il ménage ses électeurs en faisant une Coupe du Monde bientôt à 78 clubs, je sais pas, à 78 nations.
C'est le
problème de l'équilibre, mais incontestablement, il est secoué.
Mais il y a quand même l'aspect du rêve du supporter, Daniel.
Ça, tu peux l'entendre. Qui dirige le foot plutôt qu'une nouvelle organisation. Mais moi, j'en ai rien à foutre, moi, aujourd'hui. Seferi, c'est pas un maître de vertu et Infantino encore moins. Donc, que ce soit eux qui aient le pouvoir ou que ce soit d'autres gens qui créent une nouvelle compétition. Aujourd'hui,
mais Daniel, tu peux pas empêcher les supporters marseillais de rêver. Les supporters, ils peuvent rêver avec un huitième de finale de Ligue des Champions face à un grand club.
Ils vont rêver quoi, Benoît? Arrêtons. Les supporters, ils sont pas débiles. Et quand bien même, ils font l'exploit en huitième parce qu'ils ont un bon tirage. Où est-ce que tu veux qu'ils aillent?
Mais c'est déjà magnifique, tu te rends compte pour les supporters
dans une
c'est magnifique, mais quel mépris est-ce que, de dire c'est magnifique.
Est-ce que ça serait une épopée, Daniel, s'ils étaient en 8e ou en quart?
Quand même, quart de finale Ligue des Champions pour les supporters.
Génial, alors c'est l'épopée, ça va être fantastique. Ils vont faire des t-shirts et des ballons. Ils vont faire des ballons, 8e de finale.
Non mais quand t'es à Marseille, tu peux pas banaliser un quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas possible.
Non mais Benoît.
Oui.
Bah si, justement, parce que l'OM a une histoire, ils peuvent banaliser et ils vont pas faire un défilé sur la Canebière parce qu'ils ont fait un quart de finale de Ligue des Champions.
Daniel, là où t'as.
Après Jean-Michel, on arrive. Vas-y.
Non, mais Daniel, là où t'as raison, c'est vrai que la vérité, c'est que. Mais c'est pas lié qu'aux dernières années. La Ligue des Champions est réservée aux grandes équipes. Tu vois, depuis X années, tu regardes le palmarès, que ça soit en quart de finale.
C'est un groupe de 8, on va dire.
Exactement.
Un groupe de 8, c'est ça, à peu près.
Tu n'as pas vu l'évolution où il n'y avait pas de tête de série et où il y avait des matchs couperés à partir des 32e de finale. T'as pas connu ça, Jérôme? L'évolution, elle est claire, ça saute aux yeux. Concernant les supporters, tu sais, la ligue fermée qu'est la NBA.
Oui.
Les salles de NBA. Allez. Il y a des supporters, il y en a tellement que pour avoir un billet, pour aller voir un match NBA, c'est impossible.
Non, mais fais pas des comparaisons comme ça. C'est une ligue fermée, ça n'a aucun intérêt. C'est autre chose, c'est un spectacle.
Ah,
bah, c'est incomparable.
Moi, je veux qu'on accepte, on va leur expliquer que c'est sans intérêt.
Jérôme.
Non, mais moi que ça devienne genre une ligue fermée, que ça a été fait pour ça, si tu veux, pour combattre les envies de certains clubs de faire une ligue vraiment fermée comme la NBA, c'était ça. En effet, ils ont essayé de changer la formule. Elle est ce qu'elle est. La vérité, c'est que, en effet, là où je rejoins Daniel, c'est que les équipes, et on le voit au niveau, juste pour confirmer le niveau. Quand moi je parle de niveau de Ligue des Champions et niveau Europa League, il y a des équipes qui sont qualifiées, qui vont se qualifier pour les barrages, les 16e de finale, qui sont du niveau Europa League, qui sont pas du niveau premium.
Donc la vérité,
c'est que c'est pour leur faire plaisir en effet, mais ils savent très bien qu'en 16e et en 8e, ils existent plus. Hmm. Et ça, c'est la réalité, c'est comme ça.
C'est le foot qui est comme ça, excusez-moi. Qu'est-ce que ça changerait à la Super League?
En fait, 80 ou 90% des équipes.
Ce qui changerait, Benoît, c'est que dans le foot, puisque vous avez créé ce foot,
puisque vous avez autorisé, parce que Benoît, moi si tu me dis demain qu'à l'UEFA ils se réunissent et ils disent bon alors on va empêcher les clubs d'avoir 30 mecs sous contrat, de ramasser tous les prospects en Europe, d'accaparer la plupart de toutes les richesses et tout, et que on fait, on permet aux autres clubs de vivre également, pas de problème, on garde cette formule. Mais à partir du moment où, je sais pas, moi on me dit, je sais pas quels sont les véritables objectifs d'un club comme Rennes qui est quand même détenu par un milliardaire, mais quand tu vois qu'au mois de janvier, t'as déjà Chelsea qui est là comme un vautour et qui dit je vais aller chercher tel joueur, je vais aller chercher ça. Mais en fait, ils vont faire quoi Rennes en fait dans leur histoire? Ils vont faire, ça va être quoi le truc? Alors je te parle de Rennes, mais la réflexion elle vaut pour l'OM. Soit tu construis un budget à 500 millions et là t'as le ticket pour viser éventuellement une fois tous les 5 ans un quart de finale. Mais sinon c'est mort. C'est mort aujourd'hui. Les joueurs à 18 ans. Mais regardez ce qui se passe avec le gars là, le gamin du Barça là, drôle là. Le PSG ça y est, ils l'ont pris à 18 ans. Chelsea ils prennent des gamins à 16, 17. On les laisse même plus se développer dans leur club comme avant. Donc, on est en train de faire des clubs qui sont complètement pauvres, à qui on fait miroiter des choses. On nage dans une hypocrisie qui est monumentale, parce que quelque part, le PSG en 2021, ils étaient sur un projet comme ça, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Le PSG, la Ligue 1, ils n'en ont plus rien à cirer. Eux, ce qu'ils veulent pour développer le business, c'est Ligue des Champions. Donc, il y a 8 matchs plus ceux de la phase finale. Hop, tu rajoutes un Mondial des clubs tous les 2 ans. Tu rajoutes un Trophée des Champions dans le golf. Ça rapporte un peu d'oseille. Tu me rajoutes un Championnat du Monde des clubs par-ci,
c'est clair.
Bon, t'arrives à faire 20 rencontres de gala. Après, on fait croire que un PSGOM, ça vaut encore beaucoup, machin, un truc comme ça. On te raconte 3-4 conneries marketing et on emballe le tout et on vend ça au gogo. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut ouvrir les yeux. Il faut juste ouvrir les yeux. Donc moi, par résignation, je le répète, je ne veux pas être un promoteur d'un truc qui n'est pas dans ma culture du foot. D'abord, pas de ligue fermée, surtout pas. Mais après, j'ai envie de leur dire, hey, les gars, vous savez quoi, là, les gros, là, allez vous taper ensemble. Faites un truc à 16 équipes ou à 18, avec un play-off, un machin, avec une porte d'entrée pour des équipes qui auraient bien travaillé. Mais par exemple, Lens, pas de problème. L'année prochaine, tu y vas dans l'élite. Tu fais podium, pas de problème. Elle est pas fermée, ma ligue. T'as le droit d'y aller. Vas-y, Ougourian, prends l'oseille qu'il y aura dans cette compétition. Et vois si l'année d'après, t'es capable de revenir. Ok, super.
Bon, Daniel.
Moi, je fais une ligue ouverte. Ouais. Mais je fais un championnat à 18 et j'arrête avec cette phase à 34 où honnêtement, c'est 34 équipes là, c'est complètement bidon.
Bon, merci d'être venu. On te retrouve dans l'after ce soir dès 22h.
Merci Daniel.
Allez.
Merci à vous de m'inviter. À bientôt. Je vous embrasse. Ciao.
Demain, on fera le débat, nous, demain, sur le rendez-vous historique pour l'OM face à Bruges. C'est vrai que c'est un excellent débat.
C'est un rendez-vous historique.
Ça va être un très bon débat.
C'est le derby qui l'a dit.
Allez, on revient dans un instant. On parle du LOSC et de l'avenir de la direction.
Tout ce qui se passe est historique.
Exactement.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.